Vous écoutez Radio Ravive, la radio plus près de vous, et c'est le moment de retrouver l'émission Le Temps de l'Histoire, présentée par Gérard Levin, en collaboration avec Radio Colavive Toulouse.
Bonjour, voici votre émission Le Temps de l'Histoire. Lors de notre dernier entretien, nous avons parlé de Bible, du mot Bible. Bien sûr qu'il n'y a pas d'équivalent dans la langue hébreu, puisque nous parlons, nous, du Tanakh, mais nous sommes penchés sur l'origine du mot, sur sa traduction dans différentes langues. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans ce domaine. En effet, on peut toujours se demander à quelle date fut rédigé l'Ancien Testament. Les premiers textes de la Bible, ceux de l'Ancien Testament, viennent de nombreuses sources écrites et orales de différentes époques. Celles des patriarches d'abord, de Moïse ensuite, mais aussi des juges et des prophètes, des chroniques royales et des poésies et sentences de sagesse de différentes périodes. De nombreux textes sont ainsi inspirés par des civilisations anciennes, égyptiennes et babyloniennes. Mais quand la Bible va, avec Ezra et son école, commencer à se faire livre et bibliothèque, à devenir un livre construit, cohérent, rédigé, pensé et à nouveau rédigé, pour devenir un texte parfait et saint, nous sommes alors vers le 6e, 5e siècle avant notre ère. L'année 587 avant notre ère marque la destruction du temple de Salomon et l'exil d'une partie du peuple des Judéens en Babylonie. Nabuchodonosor, le Babylonien, a gagné la guerre et détruit le temple. Mais il est balayé, lui et son royaume, par Cyrus, roi des Perses, qui prend la direction d'une grande partie de l'Orient vers 539 avant notre ère. Plus libéral sur le plan religieux, Cyrus signe alors un édit favorisant le retour des exilés sur leur terre. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Chronique. Cet édit donne chair à un rêve de retour si bien décrit par la poésie des psaumes du roi David et dont la version anglaise sera reprise par de très nombreux chanteurs comme symbole de nostalgie et d'exil. Tous ces airs sont inspirés du même épisode biblique. Sur les rives des fleuves de Babylone, là nous nous assîmes et nous pleurâmes en souvenir de Sion. Psaume 137. Je ne vous ai pas lu le psaume en entier, bien sûr. Le retour de l'exil ne se fait pas sans un questionnement de fond sur l'identité du peuple des Judéens, qui se vit alors au sein d'une conscience déchirée entre Babylone et la Judée. Cette oscillation identitaire rend problématique le rapport à la terre. La terre n'est plus vraiment la Judée, mais elle n'est pas non plus celle de Babylone. Naît alors un nouveau lieu, un nouveau sol où les Judéens vont s'enraciner. Un livre qu'il s'agit maintenant d'instaurer comme nouvelle patrie. C'est à ce moment que sont dessinés les contours du livre, de ses chapitres et versets, du choix des paroles que l'on retient, des histoires que l'on va raconter et de celles qu'on va laisser dans le silence. Des personnages qui vont devenir héros du livre et de ceux qui resteront toujours dans l'ombre de l'anonymat. La Bible naît à un moment où il devient nécessaire que l'histoire du peuple, de ce peuple de Judéens, soit mise par écrit, que leur vie devienne livre et histoire pour que le livre aussi s'ouvre sur la vie et lui donne la possibilité de continuer. Mais d'abord, Judéens en Judée, avec le souvenir d'être sortis d'Égypte, puis Judéens en Babylonie, ils redeviennent Babyloniens en Judée. Communauté de l'exil, c'est ainsi qu'ils se vivent au cœur de tous ces bouleversements. Il leur apparaît comme nécessaire de se trouver une nouvelle appellation ou d'en officialiser une ancienne et de la fonder aussi dans une histoire. Toutes les anciennes traditions vont ainsi devenir le terreau d'un texte où l'identité va enfin pouvoir se construire, s'écrire, se forger, se mémoriser et se développer. C'est alors, et alors seulement, que dans l'histoire naît Israël, comme identité, identité nationale, mais aussi symbolique, fondant un nouvel imaginaire social. Le nom Israël existait déjà à cette époque. On le trouve déjà sur la stèle de Micha, qui présente d'ailleurs une version d'un texte du premier livre des rois. Mais c'est bien avec la rédaction de la Bible que ce nom devient un nom symbolique. La mémoire de cette mutation d'identité qui sera ensuite reprise et commentée dans les prophètes s'inscrit pour la première fois dans un passage du livre de la Genèse, le combat de Jacob avec l'ange. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué à Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Maintenant, chers amis, je vous propose une petite pause musicale de musique klezmer.
Mit amol tut abloz on gisn na regn schrei der rebe zu der chmare her uf gisn wasser denn alle chassidim tritten na reus und der rebe sa reus sa nasse chiribim chiribom chiribim bom 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 chiribim chiribom chiribim bom 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 chiribiri biri 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 bom 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 chiribiri biri 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 bim chiribim bom 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 Schein wie die Levone, lichtig wie die Stern, von Himmel am Atone bist du mir zugeschien. Mein Glück hab ich gewonnen, denn ich hab dich gefunden, scheint sie tausend Sonnen aus mein Herz war glick. Deine Zehnderlach, weiße Perlach, mit deine schöne Augen, deine Händerlach, deine Herrlach, hast mich zugezogen. Schein wie die Levone, lichtig wie die Stern, von Himmel am Atone bist du mir zugeschickt. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du einer auf der Welt. Bei mir bist du gib, bei mir hast du ich, bei mir bist du teurer von Geld. Viel schöne Inglach haben schon gewollt, nehmen mich und von sei alle ausgeklieben. Hab ich nur dir, bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du einer auf der Welt. Tumbala, 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 laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, laika, freila soll sein. Steht der Bocher, steht und tracht, tracht und tracht, die ganze Nacht. Wehmen zu nehmen und nicht verschämen, wehmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, 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 laika, tumbala, Tumbala laika, spielbala laika, tumbala laika, freila soll sein. Wo nimmt man a bissele Masel, wo nimmt man a bissele Glied? Dos Reidele soll sich schon drehen, singen mein Nadel zu rief. Die Welt ist beschaffen geworden, vor alle Menschen gleich. Wo nennt man ein bisschen Chotscha, klein bisschen, wo nennt man ein bisschen Glied? Wo nennt man ein bisschen Chotscha, klein bisschen, wo nennt man ein bisschen Glied? Chiribim bom 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 chiribim chiribom chiribim bom 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 chiribiri biri 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 bom 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 chiribiri biri 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 bim chiribim bom 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 bom.
Chers amis, nous reprenons le fil de notre conversation. La Bible est constituée de nombreux livres qui datent chacun d'une période historique différente et qui relatent les événements mythiques ou politico-historiques de ces époques. Ce n'est que par la suite que ces livres ont été rassemblés en un livre appelé Bible. Et ce rassemblement, ou cette rédaction définitive, est relativement tardif, vers le 6e, 5e siècle avant notre ère. La question se pose de savoir pourquoi, précisément, à cette époque, se met en mouvement cette écriture définitive. Nous en avons donné une première justification, nationale, liée à la nécessité de fonder une nouvelle identité forte, suite au bouleversement politique et à l'exil. Mais il y a un second facteur lié à une évolution des mentalités d'ampleur internationale. Ces 6e et 5e siècles sont l'époque, d'abord en Grèce, de la naissance d'une science qui s'appellera bientôt « histoire », terme qui signifie à l'origine, chez ses inventeurs, « enquête ethnographique ». Il s'agit pour les premiers enquêteurs historiens grecs de raconter les coutumes des ethnies que les voyageurs grecs découvrent au cours de leur voyage, qu'ils soient faits à titre politique, commercial ou autre. Il est vrai que, déjà dans les siècles qui ont précédé, certains auteurs s'étaient mis à écrire l'histoire de leur nation ou royaume. Mais cela était toujours resté au niveau d'une perspective de pouvoir dans laquelle les rois et souverains tenaient à faire mémoire de leurs hauts faits. Oracle politique et non pas encore histoire véritable. En effet, le 5e siècle est un siècle charnière. Le 5e siècle, c'est par exemple le siècle de Périclès, qui sur un plan de l'esthétique culturelle, cultuelle, est le début de l'apogée du monde grec. Le 5e siècle, c'est la naissance de Bouddha, vu l'importance qu'a eu cet homme. Extraordinaire, puisque ça continue encore aujourd'hui. Et puis nous avons aussi Zoroastre, qui a fondé cette religion monothéiste. Bien, pas, ce n'était pas une religion révélée, mais elle était pratiquée dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, la Perse ancienne. Donc le 5e siècle reste un siècle important pour l'évolution justement des mentalités religieuses. C'est Hérodote qui fut le pionnier de cette histoire moderne, et que par un biais ou un autre, les scribes de Judée eurent accès à la méthode de ces premiers historiens grecs. Ils surent écrire leur passé national, autrement dit, le construire. Une grande singularité marquait leur entreprise. À la différence d'Hérodote et de ses prédécesseurs, ils ne voyagèrent pas. Ils prirent directement leur nation comme objet central de leur démarche. Mais ils remontèrent le plus loin possible dans le temps, et même jusqu'avant le temps. Ils placèrent le récit de la création comme préalable à l'histoire de leur nation. Ainsi, Israël présenta son passé comme l'axe central de l'histoire du monde. Une façon, dans un monde politique où la nation n'était pas maître de garantir son existence sociale et sa reconnaissance morale, Israël fondait par écrit son passé pour épuiser les forces de son avenir. Chers amis, je vous remercie de votre attention. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt.
Aura Vive, retrouvez-nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.